Salut à tous, ici Zeni pour le 6ème épisode du Poké Freak Show. Dans ce podcast, nous avions déjà abordé vite fait les grandes thématiques de la 6ème génération de Pokémon à travers Trousselin. Aujourd'hui, nous allons faire plus ou moins la même chose avec celle qui est venue juste après, la 7ème génération. Révélée au cours de l'année 2016, elle prenait place à Alola, une région constituée de plusieurs îles qui se voulait être l'alter ego des îles d'Hawaï. On y retrouve donc dedans tout ce qui fait la renommée de l'archipel américaine, que ce soit son ambiance en règle générale, sa faune et sa flore, sa manière de saluer, son gigantesque observatoire, mais aussi et surtout sa culture et ses mythes. Et là on est plutôt gâté avec notamment les 4 dieux protecteurs hawaïens, réincarnés en Tocorico, Tocopillon, Tocotoro et Tocopisco. D'autres aspects du jeu sont aussi intéressants à observer, que ce soit la fondation Ether, le duo légendaire représentant le soleil et la lune, mais aussi, bien évidemment, les ultra-chimères, dont la construction et l'origine sont quand même très intéressantes. Et n'oubliez pas que nous sommes là, ici, pour parler de Pokémon peu appréciés. Car le sujet du jour est en réalité un autre aspect intéressant de cette version. Lors de notre périple sur la première île d'Alola et au milieu de nos combats face à la Team Skull, on finit par faire la connaissance de Gladio, un dresseur blondiné au regard noir. Et lors d'un combat en double face à la team de Gangsta, il lance un Pokémon. Un Pokémon intrigant, quadrupède avec une queue de poisson, des griffes de lézard, une crinière de métal et un énorme casque qui nous empêche de voir son visage. Au fil de l'aventure, on apprend que c'est un Pokémon créé et élevé en laboratoire, en triple exemplaire, à des fins... mystérieux. Enfin, au cours de l'aventure, on finit par le voir sans son casque, ce qui constitue son évolution. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des deux Pokémon considérés comme légendaires, le numéro 772 type 0 et le numéro 773 Sylvalier. Type 0, quel étrange nom déjà. Des 7 générations actuelles, c'est l'un des seuls Pokémon qui possède un chiffre dans son nom avec Porygon 2. Et c'est pas sa seule particularité. En effet, il a été prouvé grâce à un quiz sur le site de Pokémon légendaires distribué que Type 0 et Sylvalier sont bien des Pokémon légendaires. De plus, ce statut est encore plus intéressant car en fait c'est les 4e et 5e Pokémon légendaires qu'on pourrait qualifier d'artificiels. On se souvient tous de Mewtwo de la première génération, créé pour répliquer Mew. Il y a aussi Genesect, Pokémon basé en théorie sur un Kabutops, qui est revenu à la vie grâce à la Team Plasma pour en faire une arme surpuissante. Enfin, il y a aussi Magerna dont l'histoire est tellement intéressante qu'on y reviendra plus tard. Donc Type 0 et Sylvalier sont juste des derniers rejetons d'une longue lignée de Pokémon créés par les humains. Mais au fond, dans quel but? Nous en parlerons peut-être plus tard. Mais pour le moment, restons aux bases. Donc Type 0 et Sylvalier sont deux Pokémon légendaires de la 7ème génération. Type 0 est de type normal, fait 2 mètres pour 120 kg, et Sylvalier est de type, à la base normale, fait 2 mètres pour 100 kg. Mais c'est bizarre, à 20 kg près, ils sont totalement identiques en fait. Effectivement, l'une des particularités de ces deux Pokémon, c'est que, dans un sens, c'est les mêmes Pokémon. Ils ont également le même cri, à une réverbération près pour Type 0 à cause de son casque, et même physiquement, ils sont presque pareils. Presque, parce que la grosse différence entre les deux, c'est justement le casque que porte Type 0. Un casque qui est pour le moins intéressant. En fait, on comprend vite que cet artefact sert à limiter la force de ce Pokémon, comme une sorte de muselière. Et de plus, on peut remarquer des pics autour de ce casque qui rappellent un autre Pokémon légendaire. Et ce Pokémon légendaire n'est autre que LE Pokémon légendaire de la licence. Celui qui représente la divinité, la puissance, l'alpha et l'oméga, Dieu, Yahvé, Jéhovah, Allah, mais dans Pokémon, on l'appellera Arceus. Oui, Dieu dans Pokémon est lui-même un Pokémon, et on peut même le capturer. Apparu dans la 4ème génération et accompagné de Palkia, Dialga et Giratina qui représentent respectivement l'espace, le temps et l'antimatière, son existence a totalement chamboulé la cosmologie du jeu, où à l'époque on croyait encore naïvement que Mew était l'ancêtre commun de tous les Pokémon. Mais selon les textes anciens de Shinnoh, Arceus est celui qui a façonné le monde, les humains et les Pokémon à son image. Il a un large panel d'attaques possibles, et, détail important, peut acquérir tous les types. En bref, c'est le Pokémon ultime, et autant vous dire qu'il est genre interdit en tournoi. Donc du coup, pourquoi je vous prends autant de temps à vous expliquer tout ça? Eh bien, c'est parce que l'existence même de Type 0 et Sylvalier est intimement liée à cette figure divine. Mais avant de continuer, étudions le synopsis de Pokémon Soleil et Lune. L'action se passe donc à Alola, une archipel paisible, mais uniquement en apparence. En effet, on apprend que la région est victime d'apparitions, celles de créatures gigantesques et surpuissantes qu'on appelle les Ultra-Chimères. Pour des raisons inconnues, il y a sur l'île des brèches interdimensionnelles permettant à ces créatures venant d'autres mondes d'apparaître pour tout dévaster sur leur passage. En réaction à tout ça, il existe sur l'île une organisation appelée la Fondation Ether. Elle est représentée par des individus tout vêtus de blanc, dont le but premier affiché est la protection et la sauvegarde des Pokémon face à la menace que constitue la Team Skull, la team malsaine de cette génération. Et bon, désolé, mais je vais vous spoiler l'intrigue. Parce qu'en fait, on apprend par la suite que la Fondation Ether et la Team Skull ne forment qu'une seule et même organisation. Et derrière cette mascarade de lutte futile entre le bien et le mal, leur vrai dessein est l'étude et surtout la capture des Ultra Chimères. Bon, sans entrer dans les détails, on apprend que la dirigeante de la Fondation Ether, Elsamina, veut utiliser les Ultra Chimères pour envahir l'archipel, et leur véritable but est donc de dompter les Ultra Chimères, pouvoir les vaincre, pour pouvoir les soumettre. Et c'est là où on revient à notre ami Type Zero. Quand on rencontre ce Pokémon pour la première fois, c'est entre les mains de ce fameux Gladio. À ce moment-là, on le rencontre en tant que personne acceptant de venir en aide à la Team Skull. Mais on apprendra plus tard qu'il s'est en réalité enfui de la Fondation Ether avec un des Type Zero. Mais du coup, pourquoi a-t-il fui en fait? Tout simplement pour pouvoir protéger son Pokémon. Car il aurait découvert tout le plot twist cité plus tôt et que Type Zero avait pour but de dompter les Ultra Chimères. De quelle manière? Tout simplement en étant lui-même une copie de Arceus, donc de Dieu. Oui, rien que ça. Car bon, après tout, quoi de mieux qu'un dieu pour surpasser des créatures surpuissantes venant d'un autre monde? Sur son physique, on retrouve plusieurs indices qui prouvent son affiliation à Arceus. Bien qu'on remarque surtout plusieurs parties qui auraient pu venir d'autres Pokémon, comme une queue poisson et des pattes vertes, il a la même forme, la même silhouette, et le collier autour de son casque est également un indice de tout ça. Et vu que ce même collier a été utilisé ainsi dans un des films Pokémon, peut-être qu'il s'agit même d'un sceau pour restreindre les pouvoirs divins? Au passage, le Pokédex de Pokémon Lune nous le confirme, ce Pokémon créé de toutes pièces porte un masque qui contient sa puissance et l'empêche de perdre le contrôle et de tout détruire. Donc c'est un Pokémon tellement puissant qu'il a besoin d'être contenu, sinon il est incontrôlable. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a sous son casque? Eh bien, il y a Sivalier. Et malgré ce qu'on a dit plus tôt, son évolution est plus complexe que simplement lui retirer son casque, il faut atteindre un niveau de bonheur suffisant. Cette évolution est même expliquée dans l'entrée de Ultra Lune du Pokédex. Il a réussi à briser son masque grâce à sa force qu'il a acquise en établissant un lien puissant avec son dresseur. En bref, la confiance de son dresseur est ce qui l'aiderait à contrôler ses pouvoirs. C'est beau, non? Et finalement, c'est pas pour rien si le premier Sylvalier qu'on rencontre dans l'aventure est celui de Gladio, celui qui l'a sauvé. On apprend d'ailleurs que c'est ce dernier qui l'a nommé Sylvalier, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Si vous voulez vous attacher à vos Pokémon, donnez-leur un nom. Et du coup, en évoluant, il se passe quoi à part qu'il a la tête à l'air? Eh bien, comme il a été dit, en évoluant, Sylvalier débloque tout l'étendue de son pouvoir. Et par là, ça veut dire qu'il obtient le talent Système Alpha, un talent quasiment identique au multitype d'Arceus, donc encore une preuve de leur lien. En effet, ce talent lui permet de changer de type en fonction de l'objet qu'il tient. Plus précisément, il doit avoir un objet appelé Rome avec le nom du type désiré, comme Rome Feu, Rome Électricité, etc. Tandis que Arceus devait avoir une plaque d'un type ou un cristal Z. Et dans l'idée, c'est plus ou moins la même chose. Bref, un talent presque divin. D'ailleurs, cela pourrait expliquer le nom de type 0. Au début, il n'a aucun type, le type normal compte pas, et en évoluant, il obtient tous les types possibles. Donc au final, Sylvalier nous est vendu comme un Pokémon surpuissant au pouvoir divin. Il a été créé pour être la copie du dieu des Pokémon, avec toute l'étendue de ses capacités. Donc avec toutes ces descriptions, on doit se douter que ce Pokémon domine tout le tiers du jeu, qu'il est banni en combat stratégique et que la simple prononciation de son nom fait frémir tous les amateurs de combat. Ça semble assez évident pour tout le monde, non? Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Sylvalier n'est pas du tout un grand combattant en stratégie malgré tout. Loin de là. Très loin de là. En fait, pour vous dire la vérité, il n'est même pas utilisable dans le pire tierce du jeu. Certains parlent même du pire Pokémon légendaire jamais inventé en combat avec Fionn. Et encore, Fionn a une excuse puisqu'il est officieusement une pré-évolution. Mais du coup, pourquoi est-il autant boudé en stratégie? Est-ce que c'est dû à un boycott religieux qui veut interdire toute copie de notre seigneur Arceus? Alors, non. Mais il y a trois raisons. Déjà, il n'a pas un éventail d'attaques très étendu. Il connaît certes des attaques basiques comme toxique ou aéropique, mais rien qui lui permet de se démarquer. Ensuite, comme la plupart des autres Pokémon légendaires, ses stats sont identiques. C'est-à-dire que ses scores de base en PV, attaque, défense, défense spéciale et vitesse ont le même score, là où chez des Pokémon non légendaires, dans leur majorité écrasante, il y a des fluctuations. Bon, les connaisseurs me diront que ok, mais c'est le cas aussi de Celebi, Mew et même Arceus. Et pourtant, c'est des options de choix en stratégie dans leurs tiers respectives. Sauf que si Celebi et Mew sont à 100 dans leurs caractéristiques et Arceus à 120, Sylvalier lui est à 95. Ce qui veut dire que ses caractéristiques sont ni bonnes ni mauvaises. Bon, ça veut dire qu'aucune caractéristique n'est son point faible. Mais pouvez-vous vraiment vous prétendre être à l'image d'un dieu quand même un solo d'eau vous dépasse sur une caractéristique? Il n'excelle donc nulle part, et à cause de son move pool très pauvre qui ne lui offre très peu d'alternatives de soutien, on peut difficilement le placer dans un type de combattant. Mais tout ce que j'ai dit, c'est rien par rapport à son pire défaut, celui qui fait toute la différence et qui l'a finalement envoyé dans les abysses des combats Pokémon. Et paradoxalement, ce gros défaut est celui qui aurait pu lui permettre d'égaler les dieux. Et je parle bien sûr de son talent. Car contrairement à multi-type de Arceus, Système Alpha lui permet de changer de type en fonction de l'objet ROM qu'il tient. Et un objet ROM, ça sert dans l'absolu à rien d'autre. Or Arceus, lui, a besoin d'un objet plaque ou d'un cristal Z pour obtenir son type. Et sans rentrer dans les détails stratégiques des attaques Z ou des pourcentages d'attaques en plus, ça lui donne un avantage en plus de celui de simplement changer de type. Sylvalier, lui, il gagne rien du tout, juste un type. Mais en théorie, ça devrait suffire, non? Bah non, parce que ça implique une chose qui pourrait sembler être une aberration en stratégie. Un talent qui marche uniquement en tenant un objet précis fait qu'il ne peut pas obtenir d'autres objets. Ça paraît con, mais c'est vraiment ce qui fait tout. Les objets que tiennent les Pokémon font partie des choses essentielles que peuvent transformer un simple Pokémon classique, donc pas une méga évolution ni Arceus du coup, en vrai guerrier, que ce soit grâce à des objets comme Rest, Orbe Vie, Mouchoir Choix, etc., etc. Bref, quand il utilise son talent, il ne peut pas avoir d'autres objets que celui qui modifie son type. Bon, on peut aussi dire que, bah tant pis, il profitera pas de son talent et on lui fera tenir un objet qui le boostera. Ouais, mais du coup il sera basiquement de type normal, et surtout il n'aura pas de talent. Et les talents aussi font partie intégrante des capacités d'un Pokémon. En bref, Sylvalier est un Pokémon qui peut profiter soit des objets, soit de son talent, mais pas des deux en même temps, ce qui est un énorme défaut en stratégie quand même. Rajoutez à ça ses statistiques très basiques et un move pool trop simple, et vous comprendrez pourquoi il n'avait même pas joué dans les pires tiers du jeu, sauf sa version acier qui s'en sort un petit peu mieux, mais bon. Alors ok, j'ai jamais fait une partie stratégique aussi longue. Mais en fait, cet aspect de type 0 et de Sylvalier est ce qui explique à 100% pourquoi il est aussi mal aimé, et donc pourquoi on parle de lui aujourd'hui. Attendez, visualisez-vous le truc. Durant la promotion de Soleil et Lune, ces deux Pokémon étaient vendus comme des créatures proches des dieux qui allaient bouleverser le monde des Pokémon. Un grand fléau qui s'abat sur les îles d'Alola, qui montrerait à l'instar de Mewtwo qu'il est très dangereux de jouer avec la vie et la mort. Et à la place, on a... ça. Un Pokémon beaucoup trop faible pour lui prêter de l'attention, en fait. Forcément, quand on a découvert la vérité sur Sylvalier, beaucoup de maîtres en stratégie se sont dit qu'il y avait une erreur. Genre que Game Freak n'avait pas vu la faille dans son gameplay qui faisait qu'il ne répondait pas à ses attentes. Comment un Pokémon aussi survendu pourrait être aussi faible ? Mais moi je me dis plutôt... et si cette faiblesse était bel et bien faite exprès ? Genre d'une manière ou d'une autre, l'univers de Pokémon nous dit qu'on ne peut pas copier Dieu ? Et qui plus est, je vous rappelle l'ironie de tout ça, la plus grande faiblesse de Sylvalier est le talent qui était censé le rapprocher de Arceus. C'est intriguant, n'est-ce pas ? Essayons d'analyser tout ça en checkant ses origines. En fait, vous savez qui me fait penser type 0 ? Tout bêtement à la créature de Frankenstein. Le fait qu'on ait l'impression qu'il s'agit de plusieurs bouts de créatures attachées entre eux est évidemment le point commun le plus frappant. En effet, dans son adaptation cinématographique de 1931, la créature a été créée en assemblant des morceaux de plusieurs cadavres pour ensuite en lui insuffler la vie. Et dans cette adaptation, le docteur Frankenstein a fait ça pour se prouver quelque chose à lui, c'est-à-dire la sensation de créer la vie, donc finalement d'être un dieu. D'ailleurs, cela est accentué par le nom original du livre, écrit par Mary Shelley en 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce qui accentue bien l'idée de faire avancer le savoir des hommes par rapport aux dieux. Mais à quel prix ? Franchement, ça colle bien, non ? Bon, dans le cas de ces films, la créature a mal tourné car on lui a mis un cerveau d'assassin au lieu d'un cerveau sain qui lui faisait faire les maladresses les plus macabres. Mais je crois qu'on a trouvé d'où venaient Type Zero et Sylvalier. Donc merci d'avoir écouté, faites un don à ma chaîne et abonnez-vous à Radiokawa et à la prochaine ! Allez, je peux cocher ça à mon bingo des blagues que tout le monde a déjà fait. Non, bien sûr que La créature de Frankenstein est finalement plus le film que le livre original a inspiré Type Zero. Mais c'est quand même bien incomplet, genre, d'où viennent tous ces morceaux par exemple, ou la volonté de créer Dieu et non pas de s'octroyer les pouvoirs divins. Et puis bon, le Frankenstein paie au final l'inattention de son assistant, il est pas victime directement de son crime d'orgueil. Et il y a plein d'autres choses encore. Au fond, vous voyez, on pourrait se contenter de ça et se dire que c'est bon, c'est bouclé. Mais dans le Poké Freak Show, on aime bien creuser. Et en effet, il existe une autre inspiration possible à ces deux Pokémon, celle des chimères. Alors oui, nous avions déjà brièvement parlé de ces créatures mythologiques dans l'épisode sur Girafarig. Pour rappel, une chimère au départ, c'est une créature issue de la mythologie grecque, qui possède trois têtes, celle d'un lion, d'une chèvre et d'un serpent. Mais dans le langage courant, les chimères désignent aujourd'hui les créatures imaginaires, ou pouvant être inspirées de la fusion de plusieurs espèces. Donc pareil, ça colle bien. Mais à cette étape de l'analyse, j'ai l'impression qu'il nous manque un truc, un petit détail, quelque chose qui nous permettrait de faire le pont vers autre chose de plus grand. Car oui, on parle de la créature de Frankenstein et des chimères, mais on s'est vite limité à l'apparence physique, et pas du tout à la signification qu'il y a derrière. Eh bien ce pont nous est offert par un certain manga populaire appelé Fullmetal Alchemist. Ce manga, écrit par Hiromu Arakawa et qui est considéré comme le meilleur manga de tous les temps, selon une étude basée sur mon témoignage à moi, fait le lien entre les chimères et une discipline dont nous parlions dans l'épisode hors-série sur Meltan, l'alchimie. Car ici, les chimères sont des créatures issues de la fusion de deux ou plusieurs espèces, et je vous ferai pas le descriptif de la discipline que j'avais fait dans l'épisode précédent, mais le but des alchimistes est de s'approcher d'un pouvoir divin à travers la science, donc potentiellement avec la création de la vie. Donc ça colle bien. D'autant que le chapitre du manga qui parle des chimères a été utilisé pour montrer aux protagonistes qu'à force de vouloir s'approcher des grands pouvoirs, on finit par causer des actes dépourvus d'humanité à travers une scène assez traumatisante, et je sais déjà que ceux ayant lu le manga qui m'écoutent savent de quelle scène je parle. Donc ouais, la piste des chimères semble finalement plus crédible que celle de Frankenstein, ou du moins, plus proche. Pourtant, il y a un petit détail qui me taraude. J'ai beau avoir cherché partout dans mes vieux grimoires sur l'histoire de l'alchimie, j'ai trouvé aucune trace du concept de chimère, ni sur le fait de chercher à créer un être depuis une enveloppe charnelle déjà existante, comme ça semble être le cas pour Sylvalier. Donc, est-ce que ça veut dire que, finalement, Type Zero trouve son origine dans un manga? Alors, oui et non. Oui, car on ne peut pas nier sa filiation au concept de chimère du manga d'Arakawa. Mais Sylvalier possède quand même les liens forts avec cette science ésotérique. Et on pourrait même englober ce lien avec toute la 7ème génération en fait. Voici quelques preuves en vrac. Déjà, Solgaleo et Lunala représentent le soleil et la lune, soit les deux astres principaux en alchimie. D'ailleurs, Solgaleo est un lion, en référence au lion dévoreur de soleil dans les représentations alchimiques. On parle également de l'éther, mais l'éther serait une substance qui, selon les recherches alchimiques, remplirait l'espace et qui serait l'ancêtre des photons et des bosons de Higgs. En d'autres termes, cette matière était au cœur d'une théorie sur la transmission de la lumière. Et du coup, on pourrait expliquer pourquoi la Fondation Éther s'appelle ainsi, de par ses liens avec Necrozma, le Pokémon Prisme qui prend justement sa source de la lumière. D'ailleurs, Necrozma, qui est le troisième légendaire du jeu, ressemble à un scorpion. Et si on l'associe à Solgaleo, le lion, et Lunala, la chauve-souris, on obtient une manticore dans sa représentation la plus populaire, soit une créature d'origine persane, également associée à une chimère. C'est déjà pas mal quand même. Et si franchement, vous êtes toujours pas convaincu... Dans le film 19 qui introduit Majerna, Pokémon de la 7ème génération, on mentionne le nom de Nicolas Flamel, soit peut-être l'alchimiste le plus connu aujourd'hui. Et en plus, ce film se passe dans une ville nommée Azoth, qui est un mot pouvant avoir plusieurs sens, mais dont tous les sens sont associés à des courants alchimiques. En gros, c'est le mot le plus proche pour parler du concept d'alpha et d'oméga à la fois. Bref, voilà. Vous voulez d'autres preuves, ou ça ira? Bah vous savez quoi? J'en ai encore des preuves. Et c'est là où on va pouvoir bifurquer avec Sylvalier. Et pour vous introduire cette nouvelle preuve, parlons d'un truc qui a été dit durant la période de promotion des jeux Pokémon Soleil et Lune. En effet, dans le magazine japonais Colo-Colo, il avait été dit que dans cette aventure, les trois starters auraient une grosse implication dans l'aventure. Alors, dans les faits, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ça a été vraiment le cas. Ceci dit, lorsqu'on nous en a parlé, beaucoup ont fait l'association entre la forme des trois starters, à savoir Otakin, Flamiaou et Brindibou, avec ce qu'on appelle en alchimie les trois principes, à savoir le mercure, le soufre et le sel. En effet, ces trois éléments ont un symbole, et ils ressemblent étrangement à la forme de ces trois starters. Le sel qui représente la Terre a comme symbole un cercle barré tout comme par un hibou. Le mercure, représentant l'eau, est symbolisé pas seulement par Meltan, mais aussi par le symbole de la féminité avec des cornes, ce que représente totalement Otaka. Mais quid du soufre, le feu ? Ben, on y retrouve deux traits avec une troisième qui les croise perpendiculairement, soit une croix qu'on retrouve sur le front de Flamiao, le tout dominant un symbole de l'infini qu'on peut associer aux yeux de notre Potisha. Avouez quand même que là, c'est trop gros pour être une coïncidence. Bon ok, c'est bien beau tout ça, mais ces machins-là, les trois principes, ça permet de faire quoi en fait ? Eh bien la question serait plutôt, qu'est-ce qu'ils ne permettent pas de faire ? En fait quand on analyse bien, ces trois principes ne sont pas là pour faire l'inventaire de ces trois matières, mais sont en réalité des allégories. Typiquement, le mercure, c'est ce qui est volatile, froid et associé à la féminité et surtout à l'esprit, tandis que le soufre est ce qui est fixe, chaud et associé à la masculinité ainsi qu'au corps. Donc déjà on se dit, au Moyen-Âge, des trucs féminins et masculins, ils auraient envie de lui faire faire un bébé. Oui mais non, il manque un truc. L'élément qui unit tout ça, le sel donc, qui peut aussi être de l'arsenic dans certaines versions. C'est ce qui associe le mercure et le soufre, puis lui insouffle l'énergie vitale. Bref, l'esprit, le corps et la vie, et bien que dans les textes alchimiques, on associe cette association plutôt à la pierre philosophale, toujours elle, ici on suppose plutôt que c'est ce qui a permis de créer type 0. Donc tout ça pour dire, type 0 serait donc créé à partir d'un otaquin, d'un flamiaou et d'un bradibou. Ça semble en tout cas être la théorie la plus plausible concernant ce Pokémon artificiel, bien que clairement on ne retrouve aucun élément de ces trois Pokémon dans son corps. Enfin, pour moi il avait des pattes de Junko et la queue de Clamiral. Mais enfin bon, dans tous les cas, cette explication confirme une chose, type 0 est bel et bien lié à l'alchimie. Ça donne un sens totalement nouveau à notre sujet. Souvenez-vous, je vous ai dit que les alchimistes avaient un but, celui de changer le plomb en or. En vérité, comme la plupart des choses que vous croyez savoir sur l'alchimie, c'est plus compliqué que ça. Car ce que les alchimistes veulent dire par « or », c'est plutôt s'approcher du divin. Pour vous donner un exemple, il existe un courant en alchimie qui se nomme « l'Ars Magna ». Il s'agit de la branche la plus ambitieuse qui ne se contente pas simplement de faire de l'or ou de créer de la vie, non. Leur but est de créer tout simplement un surhomme, voire même de recréer Dieu. Les adeptes de ce courant estimaient qu'il s'agissait du vrai but de l'alchimie, de pouvoir maîtriser toute la puissance divine. La pierre philosophale ne serait alors juste qu'à une simple étape de ce but, qui nécessite donc des manipulations sur les corps humains afin de créer un véritable corps céleste omnipotent. Donc autant vous dire que cette branche de l'alchimie, cette Ars Magna, est finalement ce qui rapproche le plus de la fondation Aether et de leur volonté de créer la copie d'Arceus en type 0 ou Sivalier. Mais à quel prix ? Car dans notre monde, l'Ars Magna a été motivé par une grande vanité intellectuelle. Pour preuve, la plupart des adeptes de ce courant s'utilisaient eux-mêmes comme cobayes afin de devenir le dit corps céleste. Et quand c'est pas leur propre corps qu'ils mutilent, c'est celui des autres. Nous pouvons citer par exemple le baron Gilles de Rey, un seigneur breton qui aurait été accusé d'avoir sacrifié des centaines de corps d'enfants pour le bien de ses expériences. Bien qu'il fasse rêver, l'Ars Magna est à considérer comme la partie obscure de l'alchimie. Déjà, ça peut supposer tout ce que la Fondation Aether a pu faire pour créer type 0. Pour au final avoir... quoi ? Une créature qui est finalement juste une copie d'Arceus. Et qui plus est, une mauvaise copie. Une créature dont la qualité qui lui aurait permis d'être comparable au Pokémon légendaire est justement sa plus grosse faiblesse. Et franchement, je trouve ça très intéressant. En voulant se prendre pour Dieu et en pensant pouvoir maîtriser son pouvoir, et suite à sans doute de très gros sacrifices, ils ont finalement créé une créature faible à cause de ce même pouvoir. C'est pas genre il a explosé à cause de ce pouvoir comme on peut le voir dans plusieurs films, non. Il est faible à cause de celui-ci. Le péché d'orgueil, qu'on appelle Hybris, est quelque chose qui existe depuis au moins la Grèce antique. Prométhée, Icare et Bellérophon en ont fait les frais. Et concrètement, on retrouve ça même dans à peu près toutes les générations de Pokémon, de la Team Rocket pensant pouvoir contrôler Mewtwo, jusqu'à du coup la Fondation Aether en passant par la Team Plasma, qui comptait prendre possession des Pokémon espace, temps et antimatière. Faut dire qu'avec une cosmologie aussi vaste, c'est pas si difficile que ça d'inclure cette thématique dans le jeu. Mais je trouve quand même qu'aucun de ces mythes ne ressemble à celui dont on parle aujourd'hui. En fait, aucun mythe tout court ne ressemble trait pour trait à celui-ci. Du coup, je pose la question, est-ce que nous ne sommes pas là face à un nouveau récit mythologique ? Et même un récit mythologique extra-diégétique quand on y réfléchit. Qu'est-ce qui différencie un conte d'un mythe ? Dans le conte, ça se finit par une morale pour donner des conseils. Le synopsis de XY, par exemple, pourrait être vu comme un conte. alors que le mythe est là pour tenter de donner des réponses à des questions philosophiques. Et ici, on a des thématiques de notre place en tant qu'humain, du pouvoir, de la divinité et globalement au sentiment d'hybris, donc du péché d'orgueil. Et au fond, ce récit d'une créature créée pour imiter Dieu afin de pouvoir maîtriser une puissance qui nous dépasse par simple orgueil démesuré de ses créateurs, pour au final avoir une chose faible à cause de ce qui devait lui rendre divin, je trouve que c'est quelque chose qui a le potentiel d'être analysé au même titre que la plupart des légendes de la Grèce antique. Je n'ai pas de doctorat en philosophie, mais ça remet en question la condition de l'homme face à ce qu'on pourrait appeler le macrocosme. Et même si on met ça sur un plan contemporain, on pourrait y voir une allégorie de certains progrès scientifiques à but écologique, qui sont au final rien de plus que des coups d'épée dans l'eau face à l'inévitable. Dans tous les cas, Type Zero et Sylvalier sont des Pokémon issus de l'hybris des scientifiques, et c'est pour ça qu'on les trouve au moins intéressants. Voilà, j'espère que ma divagation philosophique vous aura plu. Divagation qui, finalement, est peut-être sur le point d'être démolie. Car en fait, tout ce que j'ai dit dans la dernière partie pourrait être démonté par une théorie. En effet, dans le jeu, on nous dit que trois types zéro ont été créés. L'un est celui de Gladio, le deuxième est celui qu'on nous donne. Mais quid du troisième? Où il est? Et si justement les deux types zéro qu'on connaît sont en vérité des brouillons? Et si le troisième, par contre, ne nous est pas révélé car c'est une réussite, genre celui qui sera à Arceus ce que Mewtwo était à Mew. Et si, je pose ça là, cette créature n'était pas au cœur des jeux de la 8ème génération. Ceci est partie de ces petits indices qui font penser que les jeux de l'année prochaine pourraient être la continuité de la 7ème génération, et où on retrouverait non pas le concept de l'alchimie, mais on y retrouverait plutôt celui de l'Ars Magna. Allons-nous commencer à rêver d'un jeu de Pokémon aussi sombre que cette discipline? Bref, je m'égare. J'espère en tout cas que ce sujet vous aura intéressé. Volontaire ou pas, l'histoire et l'évolution en stratégie de Sylvalier est très intéressante sur un plan philosophique. Peut-être que si les alchimistes avaient réussi à atteindre leurs objectifs, ils auraient également trouvé ça tout aussi décevant, qui sait. Bref, c'était le 6ème épisode du Poké Freak Show. Dans le 7ème, nous parlerons cette fois de l'évolution de l'alchimie, à savoir la chimie tout court. Car les sciences ésotériques, c'est trop cool à analyser. Mais elles n'ont pas le monopole des inspirations, les vrais trucs scientifiques peuvent aussi donner des idées de concepts de Pokémon. Des Pokémon moches, certes, mais quand même, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de parler de ce podcast s'il vous a plu, et de remercier Radio Kawa de me produire en leur faisant un petit don sur le Patreon. Au passage, notez que l'émission a enfin son compte Twitter perso. Donc suivez le compte @PokéFreakShow, tout attaché et sans accent, pour pouvoir suivre au jour le jour les avancées des épisodes, avoir des infos sur l'actualité de Pokémon, ou tout simplement pour me laisser des petits mots gentils. Et dans tous les cas, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle étude de terrain qui va bien nous faire planer. Ciao! Vous connaissez probablement le roi Arthur, sa reine Guenièvre, son épée Excalibur et son enchanteur Merlin. Mais connaissez-vous l'histoire de la mort tragique de Loholt, le fils d'Arthur et de Guenièvre? Saviez-vous qu'Excalibur n'était pas à l'origine planté dans un rocher et qu'elle est souvent portée par Gauvin? Que Merlin est né couvert de poils et doué de la parole? On vous a encore rionné dans un dîner mondain parce que vous avez confondu le Perceval, le Père Lesvos, le Parsival, le Perséphorès, le Parsifal et le Perceval en prose, et vous n'êtes toujours pas sûr de la distinction? Depuis les rives du lac Léman, où Arthur aurait vaincu le monstrueux chat de Lausanne, Leïs et Antoine vous aident à naviguer les riches multitudes des légendes de la matière de Bretagne dans Rex Candam Resque Futurus, tous les mois, sur Radio Kawa.